France Culture.
Le journal est signé Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Une étape de moins sur le long chemin du budget 2025. La commission mixte paritaire a trouvé un terrain d'entente à la mi-journée. Le texte passera lundi devant les députés. Les détails avec Antoine Maret dans un instant. Camille Magnard reviendra sur un point sensible de ce budget, la réforme du mode de fixation du tarif de l'électricité produite par les centrales nucléaires. Au Proche-Orient, la libération de 3 nouveaux otages par le Hamas demain. Un franco-israélien figure parmi eux, Ofer Calderon. Trouver un accord et libérer nos enfants, c'est l'appel de Mireille Colère à Emmanuel Macron ce matin. Sa fille Cécile est détenue arbitrairement en Iran depuis 1000 jours. 5 ans après le Brexit, le Royaume-Uni cherche à nouveau à se rapprocher de l'Union européenne. Avec Cécile de Kervas-Doué, nous nous pencherons sur le secteur de la recherche. Le Royaume-Uni fait à nouveau partie des programmes européens. Une étape décisive a été franchie pour le budget. La commission mixte paritaire a abouti à une version de compromis entre les deux chambres. La version sortie de la CMP est très proche des arbitrages des deux chefs de file de la coalition gouvernementale pour ces discussions. Rare pomme de discorde entre la droite et les macronistes, la question de l'aide médicale d'État, les critères d'accès à l'AME n'ont pas été modifiés comme le souhaitaient la droite et le RN et comme le redoutait le Parti socialiste. Globalement, la CMP a surtout sanctuarisé les engagements pris par François Bayrou mi-janvier, refusant les taxes supplémentaires proposées par le PS. À l'issue des discussions, les socialistes ont d'ailleurs affirmé avoir voté contre le budget. Antoine Maret, les menaces de censure venues de la gauche et de l'extrême droite persistent.
Une journée et demie de huis clos et finalement cet accord conclu à 8 voix contre 6. Le rapporteur général du budget au Sénat, le LR Jean-François Husson, se félicite de l'objectif de redressement des comptes publics avec un déficit ramené à 5,4% et il vante la qualité des débats.
J'espère que dans les temps qui viennent, le débat politique et public restera de la qualité qui a été celle qu'on a pendant ces 2 journées connues. D'aucuns auraient pu penser qu'on était là pour faire des coups bas ou être dans une forme de théâtre politique. Chacun a eu ses arguments. Il n'y a eu aucune volonté d'empêcher à la fois le débat et de bien prendre en compte les attentes des uns et des autres.
Sauf que pour le RN, LR est le grand perdant de cette CMP. Le député Jean-Philippe Tanguy parle même de lourde humiliation pour la droite.
Les LR n'ont même pas obtenu 200 pauvres millions d'euros sur l'AME. Ils n'ont obtenu même pas une petite modification ridicule du dispositif technique. Donc les Républicains soutiennent M. Macron pour rien, sinon plus d'impôts pour les entreprises, plus d'impôts pour les ménages et plus de socialisme sociétal.
Le RN décidera lundi de son vote sur la version finale du budget, si vote il y a, et de sa position sur une éventuelle censure. Le PS non plus ne se prononce pas encore sur cette question de la censure.
Le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, et président de la Commission des Finances, a quant à lui fustigé un budget pire que celui proposé par Michel Barnier. Parmi les sujets sensibles, l'article 4 conservé par la CMP, il prévoit une réforme du mode de fixation du tarif de l'électricité produite par les centrales nucléaires. Or, le RN en a fait une ligne rouge. Il menace de censurer le gouvernement. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Nicolas.
Selon le Rassemblement national, cet article 4 entraînerait une envolée des prix de l'électricité pour les ménages.
Oui, cet article 4, c'est la transposition dans la loi de finances d'une nouvelle manière de calculer le prix de l'énergie nucléaire. Jusque-là, EDF avait obligation, pour se conformer à l'ouverture à la concurrence européenne, de vendre aux opérateurs privés une partie de l'électricité produite par ces centrales, au prix fixe de 42 euros du mégawattheure. Mais fin 2025, ce système doit prendre fin. Il en faut un autre. D'où donc ce fameux article 4, décrypté pour nous par Nicolas Goldberg, associé énergie chez Columbus Consulting.
Ce que prévoit l'article 4, c'est que le nucléaire ne soit vendu qu'au marché et que il y ait quand même des seuils de taxation au-delà d'un certain montant, au-delà de 80 euros et au-delà de 110 euros, pour éviter les surprofits d'EDF qui pourraient être rendus ensuite aux consommateurs. Le RN s'oppose à ce fonctionnement de marché, pourtant poussé par EDF, parce qu'ils arguent que ça va faire monter les factures. Mais ce qui va faire monter les factures, c'est surtout la fin du nucléaire à 42 euros du mégawattheure.
Oui, pour Nicolas Goldberg, on l'a compris, l'article 4 en tant que tel ne va pas automatiquement faire grimper la facture d'électricité des Français, mais elle sera, c'est vrai, plus soumise aux variations du marché et aux appétits d'EDF qui négocient vers le haut le seuil au-delà duquel les tarifs seront plafonnés. C'est en tout cas la crainte de François Carlier de l'association de consommateurs CLCV.
Effectivement, le nucléaire va être facturé bien plus cher qu'avant. Bon, là, on va avoir un tarif réglementé qui sera bien stable pendant une année et même deux, je pense, globalement. Mais ensuite, la suite est quand même assez obérée par des prétentions fortes d'EDF en termes de tarification du nucléaire.
En attendant, au RN, c'est le président délégué du groupe parlementaire, Jean-Philippe Tanguy, qui a fait du sujet une ligne rouge susceptible de justifier la censure du gouvernement par le parti d'extrême droite. La décision finale, toutefois, devrait être prise par Marine Le Pen et Jordan Bardella ce lundi.
Merci Camille Magnard. Une information judiciaire pour faux témoignage a été ouverte à la Cour de justice de la République contre la ministre Aurore Berger. Elle avait récusé tout lien personnel avec une lobbyiste des crèches privées. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui avait émis un signalement en octobre après des déclarations faites sous serment. Auditionnée par une commission d'enquête sur le modèle économique des crèches, Aurore Berger avait affirmé, sous serment donc, n'avoir aucun lien personnel, intime ou amical, ni d'acquaintance avec la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches, Elsa Hervy. Or, dans son livre Enquête, les orgues sur les dérives de certains groupes privés de crèches, le journaliste d'investigation Victor Castanet évoquait un pacte de non-agression qui aurait été conclu entre Aurore Berger, à l'époque où elle était ministre des Familles, et Elsa Hervy. L'élection municipale parisienne et la succession d'Anne Hidalgo continuent de susciter les appétits, notamment à gauche. Les écologistes parisiens veulent déterminer leur candidat par une primaire. Les candidatures seront closes ce soir, avant un vote à la mi-mars. Trois candidats, David Belliard, adjoint à la maire de Paris, Fatoumata Koné, chef de file du groupe écologiste au Conseil de Paris, et Anne-Claire Bou, adjointe chargée de la santé. Sauf qu'un autre candidat sème le trouble. Yannick Jadot, le sénateur, refuse de se prêter au jeu de la compétition interne. Il juge être le meilleur candidat à investir pour contrer la droite de Rachida Dati. Estelle Caméraire, bonsoir.
Bonsoir.
Si les autres candidats ne se rallient pas à lui d'ici ce soir, Yannick Jadot ne participera pas à la primaire, mais il maintient le flou autour des municipales.
Oui, il tourne même autour du pot lorsqu'on lui demande si après minuit il ne sera officiellement plus candidat aux municipales.
Officiellement, après minuit, je ne suis pas candidat à la primaire des écologistes. Il n'y a pas à avoir comme ça des réponses définitives à un an et demi d'une élection.
Yannick Jadot l'a martelé depuis hier soir, il ne souhaite pas ajouter de la division à la division. D'après lui, ce n'est pas sa décision qui sème le trouble, mais l'idée même d'une primaire.
À la fois, c'est un mode de désignation incontestablement démocratique, mais ça laisse aussi des traces, ça parasite les campagnes. Et puis, au sein des écologistes, tous les candidats sont issus du Conseil de Paris, de la majorité sortante, d'ailleurs comme les candidats socialistes. Donc, il fallait ce petit plus qui vient de l'extérieur, qui vient bousculer le jeu, justement pour permettre le leadership des écologistes et atteindre cet objectif qui serait incroyable, que Paris soit une capitale verte.
Aucun des quatre candidats ne compte se retirer ou se rallier au sénateur, sauf s'il est élu. C'est pourquoi une primaire est essentielle pour le candidat en lice, David Belliard, adjoint à la maire de Paris en charge des transports. Selon lui, une désignation interne prouve que les Verts sont capables de débattre sans se diviser et donc de montrer l'exemple. Mais les candidats regrettent la pression de la direction d'Europe d'écologie Les Verts. La secrétaire nationale Marine Tondelier avait appelé à se ranger derrière Yannick Jadot. Sauf coup de théâtre dans les heures qui suivent, la primaire aura bien lieu en mars prochain, quitte à accentuer les tensions entre les Verts.
Merci Estelle Caméraire. Croix et plaques renversées, marbre fendu au cimetière de la Trinité-sur-Mer. En Bretagne, 20 jours après son enterrement, la tombe de Jean-Marie Le Pen a été très dégradée. Une enquête est ouverte, l'acte de vandalisme a eu lieu la nuit dernière. Hier, un accident de car scolaire à Châteaudun, en Eure-et-Loir, provoquait la mort d'une lycéenne de 15 ans et des blessures à 20 autres élèves. Aujourd'hui, les analyses sanguines ont confirmé le premier test salivaire. Le chauffeur de car scolaire avait consommé du cannabis. Il ne s'agit pas de consommation passive, affirme également le procureur de la République. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, dit espérer la mise en place d'ici quelques mois d'un dépistage contre les stupéfiants pour pouvoir démarrer un car scolaire, à l'image de ce qui existe déjà pour l'alcool. Ce n'est pas si simple, explique cet avocat spécialisé dans les délits routiers.
En matière d'alcoolémie, vous avez un éthylotest anti-démarrage qui est obligatoire pour les conducteurs de transport en commun. En revanche, il n'y a pas de possibilité de contrôle d'antidémarrage en matière de stupéfiants. Il ne pourrait y avoir éventuellement que des dépistages préalables, mais on sait que les dépistages sont quand même relativement inexacts. Ils peuvent être inexacts parce qu'il peut y avoir des faux positifs, et seul un prélèvement salivaire ou un prélèvement sanguin peut permettre de façon péremptoire de mettre en évidence la présence de stupéfiants dans le corps. Alors, il peut y avoir éventuellement des dépistages préalables, bien évidemment, qui pourraient s'imposer pour chaque conducteur de transport en commun ou même de façon générale pour chaque conducteur, mais ce n'est pas une méthode précise. C'est ça la difficulté, c'est que ça peut mettre en porte-à-faux des gens qui n'ont pas nécessairement consommé de stupéfiants, qui ne peuvent avoir été qu'en présence de personnes dans une pièce fermée, de gens qui, par exemple, je sais pas moi, une demi-heure avant, qui auraient consommé des stupéfiants à ses côtés. C'est très compliqué, c'est d'autant plus que il peut y avoir une présence de stupéfiants dans le corps, mais sans que la personne soit sous l'emprise de stupéfiants. Vous pouvez vous voir reprocher cette infraction, même si dans votre corps, la présence de stupéfiants n'a plus aucun effet psychoactif quant à la conduite de votre véhicule. C'est ça la difficulté.
Jean-François Changeur, interrogé par Florence Turme. C'est un mouvement de protestation inédit. Les agents de l'Office français de la biodiversité ont manifesté dans de nombreuses villes pour exprimer leur mal-être et réclamer davantage de soutien des pouvoirs publics. L'appel national à la grève a été très suivi avec plus de 62% de participation au niveau des services en métropole et outre-mer, indique la direction de l'organisme public. Au Proche-Orient, une porte va se rouvrir demain, le point de passage de Rafah à l'extrême sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte. Point contrôlé et fermé par l'armée israélienne depuis près d'un an et décision très critiquée par les organisations humanitaires. Des membres du Hamas vont pouvoir passer en Égypte pour être soignés. C'est demain également que 3 otages supplémentaires doivent sortir de l'enclave palestinienne en vertu de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Parmi eux, Ofer Calderon, l'un des deux derniers franco-israéliens retenus depuis le 7 octobre. Ofer Calderon va, si tout va bien, retrouver ses enfants demain en Israël, Thibault Lefebvre.
Oui. Sa fille Sahar, 16 ans, et son fils Erez, 12 ans. Les deux adolescents ont été libérés lors de la première trêve en novembre 2023 après plus de 50 jours aux mains du Hamas. Ils ont été enlevés avec leur père au kibboutz de Nir Oz le 7 octobre et séparés dès le début de leur captivité. Le jeune garçon a grimpé sur le toit d'une maison, puis il a été repéré par des miliciens du Hamas et emmené à moto à Gaza. Sahar, elle fuit dans les champs avec son père où elle s'est cachée pendant 2 heures avant d'être capturés. Aujourd'hui, selon leurs proches, ils ne vont pas bien. Erez craint d'ouvrir des portes, de peur de trouver des terroristes embusqués. Sa grande sœur a l'impression d'être redevenue une petite fille avec cette crainte permanente d'être abandonnée et kidnappée. Ce sont donc des enfants traumatisés que va retrouver demain matin Ofer Calderon. L'otage franco-israélien doit être libéré dans la matinée. C'est donc la fin d'un cauchemar, ou plutôt le début de la reconstruction pour une famille séparée depuis 484 jours.
Thibault Lefebvre à Jérusalem. Dans le cadre de cet accord, 90 détenus palestiniens vont être libérés, dont 9 qui purgent des peines de prison à vie. Voilà 1000 jours que Cécile Kohler et Jacques Paris sont détenus arbitrairement en Iran. Un autre Français, Olivier Grandeau, est détenu quant à lui depuis 843 jours. Accusés d'espionnage, ils sont incarcérés à la prison d'Evin à Téhéran. 1000 jours, alors, la famille de Cécile Kohler et son comité de soutien organisent des manifestations dans plusieurs villes de France. C'était le cas à Soultz, dans le Haut-Rhin, la ville d'où elle est originaire. Manifestations dans d'autres villes demain, notamment à Paris. La famille demande à Emmanuel Macron d'intervenir. Les autorités françaises continuent de réclamer leur libération sans que cela n'aboutisse. Valérie Crova.
Des otages d'État, c'est l'expression utilisée par le Quai d'Orsay quand il parle des ressortissants français détenus en Iran. Christophe Lemoine, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Ils ont été arrêtés pour des motifs auxquels ils sont parfaitement étrangers. Ils ont été condamnés sans preuve. C'est pour ça que nous appelons ça des otages d'État. Ça veut dire que la République islamique d'Iran retient de manière injustifiée des ressortissants français.
À la détention arbitraire s'ajoutent des conditions d'incarcération jugées indignes.
Être dans une cellule de 9 mètres carrés où la lumière est allumée toute la journée, où il n'y a pas de lit, où les promenades sont quasiment inexistantes, où la France ne peut pas exercer correctement son droit de visite consulaire, qui est un droit qui est reconnu par la Convention de Vienne. C'est complètement de la torture.
Dès lors, comment faire pression sur Téhéran? Si le dialogue n'est pas rompu, il est difficile, reconnaît le porte-parole du Quai d'Orsay, malgré l'élection d'un président qualifié de réformiste en juillet dernier.
On a pensé que ce serait peut-être le signe d'une ouverture de négociations et la voie d'une solution pour faire sortir les otages. En vérité, depuis l'élection de M. Pezeshkian, la situation s'est dégradée.
Les autorités françaises conditionnent aujourd'hui le dossier des trois Français à la reprise de l'accord sur le nucléaire iranien.
Les députés allemands rejettent de justesse une proposition de loi destinée à restreindre l'immigration et soutenue pour la première fois depuis 1945 par les conservateurs et l'extrême droite ensemble, malgré le tollé que ce rapprochement entre les deux formations suscite dans le pays. La proposition de loi de la CDU rejetée limitait le rapprochement familial et facilitait les placements en rétention des étrangers sans papier à la frontière. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne il y a 5 ans et il y a bien longtemps que l'euphorie de ceux qui avaient voté en sa faveur outre-Manche est retombée. Les promesses de réduire l'immigration, de sauver le système public de santé, de nouer des accords commerciaux plus avantageux, notamment avec les États-Unis ou le Canada, eh bien toutes ces promesses ne se sont pas concrétisées. Selon un sondage YouGov publié cette semaine, seulement un Britannique sur 3 affirme que le pays a bien fait de voter en faveur du Brexit. C'est le niveau le plus faible jamais enregistré. Sans revenir en arrière, le Royaume-Uni cherche à se rapprocher de l'Union européenne. Exemple, le secteur de la recherche. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Ce n'est pas forcément très connu, mais depuis le 1er janvier 2024, le Royaume-Uni fait à nouveau partie des programmes européens de recherche.
Oui, depuis le 1er janvier 2024, le Royaume-Uni est devenu un pays associé au programme Horizon Europe. Contre une contribution d'environ 2,5 milliards d'euros par an, les équipes de chercheurs britanniques peuvent bénéficier à nouveau des fonds européens du programme s'ils sont sélectionnés. Pour la première année de leur réintroduction, ils ont ainsi été financés à hauteur de 300 millions d'euros. C'est peu, contre le milliard qu'ils recevaient en moyenne avant 2020. Et ça a déjà créé une polémique au Royaume-Uni. Mais c'est un redémarrage, considère Jamie Aerosmith, le directeur de l'organisation UK Universities, qui représente 141 universités britanniques.
Notre retour est assez récent, mais nous voyons que le nombre de candidatures pour le programme Horizon ne cesse d'augmenter dans les universités britanniques. Nous avons toujours milité pour que le Royaume-Uni joue un rôle plein et entier dans le programme Horizon, car depuis 20 ans, la science et la recherche sont multilatérales. Elles ne se font pas au sein d'équipes nationales, ni même entre deux pays. La recherche est internationale. C'est une question de réseau et c'est pour ça que ce programme européen est si important.
Surtout au Royaume-Uni, où la recherche britannique s'appuie à 60% sur un réseau international. Un réseau qui a beaucoup souffert du Brexit parce que les échanges avec l'extérieur ont été de plus en plus difficiles. Et c'est précisément ce que veut voir changer l'organisation Science Europe, l'organisation qui regroupe la plupart des institutions publiques de recherche en Europe. Lydia Borrell-Damian est sa secrétaire générale.
On espère que le Royaume-Uni va s'ouvrir de plus en plus avec des échanges. C'est vrai qu'il y a maintenant plus de barrières qu'il y en avait avant. C'est un problème classique de mobilité pour chercheurs. Mais c'est très dur à changer ça.
Et la question de l'échange de 200 000 étudiants et chercheurs européens par an est actuellement au cœur des discussions entre l'UE et le Royaume-Uni.
Merci Cécile de Kervas-Doué. La Chine vient de basculer cette semaine dans l'année du serpent. Et comme chaque année, le nouvel an chinois donne lieu à 8 jours fériés. Mais beaucoup d'usines sont à l'arrêt total pendant plusieurs semaines. Les ouvriers, généralement intérimaires, rentrent chez eux pour aller voir leur famille, souvent à l'autre bout du pays. C'est une tradition qu'aucun chef d'entreprise ne peut remettre en cause, même si cette longue pause n'est pas vraiment bonne pour les affaires à un moment où l'économie chinoise fait face à une période de ralentissement. Le reportage de notre correspondant Sébastien Berriot.
Le silence est presque total dans cette usine du Fujian qui produit de l'huile de cuisine. Ici, les machines sont arrêtées depuis le 10 janvier, bien avant le nouvel an. Les 80 ouvriers ont déserté le site pour rejoindre leur famille, comme Yuqin, l'une des employées.
Le nouvel an chinois est très important pour nous. Je suis très contente de cette longue pause sans travailler pendant un mois.
Comme chaque année, il a fallu s'organiser pour s'adapter à la tradition du nouvel an. Une véritable course contre la montre, explique Mo Xia, responsable production.
Notre production se concentre sur les mois de novembre et décembre.
Et les deux premières semaines de janvier, nous essayons de terminer toutes les commandes et d'expédier toutes les marchandises avant le nouvel an.
Impossible pour le moment de fixer une date précise de reprise d'activité. La plupart des ouvriers ne sont pas sous contrat et pour les faire revenir, il va falloir les convaincre un par un, nous dit l'un des patrons, Peter Sie.
Nous accordons des primes à nos ouvriers qui occupent les postes les plus importants pour les encourager à revenir plus tôt de vacances.
Pour le bien de l'entreprise, ce responsable nous confie préférer des vacances du nouvel an qui seraient limitées à 2 ou 3 semaines. Mais comme dans beaucoup d'usines chinoises, l'arrêt des machines, ici, devrait durer environ 1 mois.
Un mot du temps, demain, il sera instable encore sur le sud-est, plus calme et plus frais ailleurs. 3 départements sont en vigilance rouge, crue, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Morbihan. Les températures maximales vont de 4 à 10 degrés sur la moitié nord et le centre-est, 8 à 12 sur le sud-ouest, 14 à 16 en Méditerranée. C'est la fin de ce journal. À la technique, François Saint-Jour.